Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
9h40 sur France Inter, heureuse de vous retrouver toutes et
bonjour
tous.
Bonjour à tous, et bon dimanche.
Ça reste la référence, mais je regarde jamais la télé.
4 secondes exactement, parce que nous sommes en...
Il y a des journalistes comme ça, Fred Musa de Skyrock, Fred Moulin de Canal+, ils ont en commun de s'appeler Fred, bah tiens, mais surtout d'avoir, dès les années 90, raconté en long, en large et en travers le rap pour le premier, le jeu vidéo pour le second, des arts et des industries qui ne trouvaient pas leur place dans les médias. Bilan, 25 ans après, le rap est devenu une culture dominante, le jeu vidéo, n'en parlons pas, c'est une planète à part entière dont les médias, figurez-vous, ne veulent toujours pas, peu importe ce qu'on vous raconte ce matin. C'est comment le jeu vidéo est devenu lui-même un média et même un réseau social, un média social. D'ailleurs, vous savez quoi? Eh bien, à quoi sert à votre avis une télévision dans un salon? Sûrement pas à la regarder pour mes gamins, mais à brancher la PlayStation, puis à jouer en ligne, c'est-à-dire à retrouver tous leurs copains.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et bonjour Fred Moulin.
Bonjour Sonia.
Le pionnier, l'un des pionniers, l'un des précurseurs à la télé, le journal du jeu vidéo sur Canal+, Exit, fin de cette émission historique et culte sur la chaîne. On vous reçoit Fred au lendemain du grand salon français, le Paris Games Week, 300 000 visiteurs au moins, et puis à quelques jours d'un énorme événement, League of Legends, à Paris.
Absolument.
Voilà, à l'accord Hôtel Arena, ancien Bercy.
C'est ça.
Bref, on vous raconte ça dans un instant. Mais aujourd'hui, il y a Cyril Petit qui est venu nous rendre visite, rédacteur en chef central au JDD. Ça va Cyril ?
Ouais, ça va, bonjour Sonia.
Voilà, alors ensemble, on revient sur un épisode de la semaine dernière. Le Monde, le journal Le Monde, a publié par erreur une nécrologie, celle de Bernard Tapie, qui souffre, on le sait, d'un cancer, mais qui n'est pas mort du tout. L'homme aux mille vies, c'était le titre de ce très long papier préparé à l'avance par deux célèbres journalistes, Davet et L'Homme. Le papier, il est resté en ligne 15 minutes avec des blancs à compléter hein, lorsque la date du décès et l'âge du défunt seront connus. Grosse boulette de la part du Monde due à une défaillance technique qui a nécessité des excuses officielles de la part du journal. Voilà Cyril.
Ouais, il faut le savoir Sonia, des centaines de textes hein, et pas seulement des nécros sont en attente dans les back-office hein, des médias. Le back-office c'est l'endroit où on écrit et où on stocke les contenus pour le web. Alors parfois ces brouillons sont publiés par erreur, ça fait plus ou moins de bruit en fonction du sujet. En 2013 par exemple, Metro News avait annoncé la mort de Michael Schumacher. Alors du coup, de plus en plus de médias un stock, ces nécrologies sur des serveurs à part pour éviter toute publication automatique.
Sans blague. Voilà, donc des médias qui ont tous et toujours préparé en avance la mort de certaines personnalités. Ça fait partie du métier tout simplement.
Et c'est indispensable hein, au cas où le décès arrive juste avant le bouclage d'un journal papier, au milieu d'un JT ou dans une matinale radio. On a vu les résultats de cette ultra préparation pour la mort de Jacques Chirac. Hein, des centaines d'articles publiés en rafale dès l'annonce à midi et des magazines en vente moins de 24 heures plus tard. En deux jours, 26 000 contenus ont été publiés. 26 000 contenus sur l'ancien président ont été publiés selon la plateforme Presse DD. C'est 5 fois plus que pour Johnny Hallyday sur le même laps de temps.
On a une idée, Cyril, de combien de nécros, de nécrologies attendent dans les frigos des journaux?
Oui, à quelques idées. Alors les noms, évidemment, restent secrets, mais voici quelques chiffres. Libération, un spécialiste des unes de décès collecteurs qui sont très marquantes, dispose d'une trentaine de textes. Le Parisien a 16 nécros de 4 à 16 pages prêtes et 3 hors-série terminées. Hein, les autres...
On ne sait pas sur qui.
Non, on ne sait pas sur qui. Personne ne le dit et c'est bien normal. Les autres plus courtes, hein, comme pour Marie Laforêt décédée samedi, sont réalisées à chaud. Le Figaro en a une centaine. Au Monde, on m'a confirmé disposer d'un peu plus de 300 textes, mais ce n'est rien à côté du New York Times. Accrochez-vous, Sonia, le quotidien américain m'a indiqué hier avoir 1800 nécros prêtes.
1800 morts prêts à enterrer, prêts à être enterrés. Une nécro prête des mois à l'avance. Ça n'empêche pas quelques loupés historiques.
Oui, on attendait la mort de Nelson Mandela depuis le printemps. Mm-hmm. Elle est arrivée un jeudi soir de décembre 2013. Alors la presse française n'a eu qu'à appuyer sur le bouton pour imprimer son dossier spécial, mais Libération a raté le coche. Rien dans l'édition du lendemain, à la différence des autres titres. un vrai traumatisme en interne.
C'est ça, c'était un gros ratage le lendemain matin. On voyait les kiosques, il y avait bandé là en une de tous les journaux, sauf de Libé. Bref, les coulisses de ces nécros, elles sont parfois surprenantes.
Oui, surtout quand elles sont prêtes depuis des années. Hein. Souvent, le journaliste qui connaît la personne rédige une base, l'actualise de temps en temps et accélère quand l'intéressé vieillit, tombe malade ou que la rumeur enfle. Par exemple, la nécro de Chirac, publiée dans le New York Times, avait été rédigée par un journaliste mort lui-même en 2007.
Ah, ouais.
À Libé, hein, on se souvient de cette merveilleuse une sans chichi. Et ben, cette mythique une avait été réalisée par des gens qui ont quitté le journal au moment où celle-ci a été publiée. Ils étaient déjà partis de Libération. Et puis, dernière anecdote racontée à Vice.com par la grand reporter du Monde, Raphaël Baquet. Elle était allée voir Charles Pasqua pour préparer sa nécrologie, mais évidemment sans le prévenir. Malin, il lui a dit à la fin, je cite, « Bon, j'imagine que c'est le seul de vos papiers que je ne pourrais pas lire. L'ancien ministre est mort le 29 juin 2015. » Peu avant la publication de cet article.
Il avait compris Pasqua. Il avait compris que c'était une dernière interview. Ouais. Ouais, c'est très joli. Moi aussi, je vous raconte une petite histoire. C'est Jean-Luc Godard, cinéaste âgé aujourd'hui de 88 ans. Il a cette année appelé lui-même Libération, demandant à pouvoir jeter un œil à sa future nécro, qu'il sait évidemment déjà écrite. Et le journal a refusé en prétextant qu'elle était encore à faire, encore à réaliser. Je trouve ça très émouvant de la part de Jean-Luc Godard et très élégant de la part de Libération. Bref, des nécros à réécouter tant qu'on est encore vivant sur franceinter.fr. Merci Cyril.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
La demi-finale du mondial de League of Legends. 100 millions de joueurs par mois connectés qui s'entretuent dans un décor, on va dire, médiéval ou d'héroïque fantasy. La demi-finale, ça donnait ça.
G2 with the team fight win. G2 with the ace. G2 looking for the Nexus. And it's over. They're killing the inhibitor. They're realm warping these minions close. They're tanking at the Nexus turret to not let this Nexus kill them. And I think they're going to...
Un match d'anthologie, disent les spécialistes. Je suis heureuse de recevoir ce matin Fred Moulin, qui a été un pionnier, un précurseur de la médiatisation du jeu vidéo, non sans quelques difficultés. C'était sur Canal+, ça a été sur Canal+ pendant presque 20 ans. On va parler, on va commencer avec le e-sport, avec l'e-sport. Hein. L'e-sport, vous allez nous expliquer ce que c'est, vous allez expliquer pourquoi ça a permis en fait une accélération de la médiatisation du jeu vidéo Fred Moulin. On va commencer par League of Legends parce que c'est un phénomène mondial et parce que la finale de ce mondial va se jouer à Paris le 10 novembre prochain. Il faut imaginer que ça se joue maintenant dans des vrais stades, des arènes totalement surchauffées devant parfois 30 000 spectateurs. Alors League of Legends, c'est quoi ?
League of Legends, c'est un jeu où 5 personnes s'affrontent à 5 autres équipes.
Oui.
Voilà, c'est un match 5 contre 5 en fait sur une, on va dire, c'est un MOBA, donc c'est vu de dessus.
Oui.
C'est pas forcément, quand on n'est pas initié, facile à comprendre, mais effectivement c'est un jeu qui cartonne, alors surtout en Corée en fait, c'est vraiment, oui, là-bas le pays où des millions de gens vraiment regardent ces finales, et effectivement il y a des audiences qui atteignent les 100 millions de téléspectateurs, c'est un phénomène incroyable.
Donc l'e-sport, c'est le versant, on va dire, compétitif, hein, du jeu,
c'est
vidéo,
ça,
parce que
ça.
Tous les jeux vidéo n'exigent pas de compétition et
absolument
n'exigent pas d'équipes qui s'affrontent. Alors tous les jeux vidéo n'y sont d'ailleurs pas du tout adaptés. Pour l'e-sport, c'est les jeux de tir, quoi par exemple ?
Counter-Strike, Call of Duty, des
Call
jeux
of Duty, c'est quoi ? Racontez.
Call of Duty, c'est un jeu de guerre où on s'affronte à 5 contre 5 en général. Après, il y a plusieurs modes de jeu qui existent, mais voilà, l'idée souvent c'est de prendre un territoire,
ouais,
ou d'éliminer l'équipe adverse. Voilà, il y a plusieurs jeux comme ça qui existent.
Voilà, donc les jeux de tir, les RTS, c'est quoi ?
Les RTS, c'est Real Time Strategy, sont, ouais, des jeux de stratégie en temps réel. Le plus connu, c'est peut-être StarCraft, voilà, un jeu où on doit, pareil, fabriquer une base le plus vite possible, et ensuite, ouais, quand on est prêt avec son armée, on va aller attaquer la base adverse, donc c'est, voilà, des jeux très techniques.
Voilà, les MOBA, vous en avez parlé, c'est League of Legends, mais voilà, quoi d'autre, par exemple ?
Là, comme ça, je n'ai pas trop en tête.
Ouais, parce que League of Legends écrase tout le monde.
Ouais, il écrase tout le monde, effectivement.
C'est ça. Et le versus fighting, c'est quoi ?
Le versus fighting, on va dire que ce serait de la boxe,
ouais,
ou c'est ce qui ressemble à la boxe, c'est des jeux de combat où on s'affronte un contre un en général,
ouais,
et puis
Smash Bros par exemple.
Smash Bros,
moi,
ça marche aussi.
Deux,
voilà,
petits garçons de 12 et 14 ans qui sont complètement dingues de Smash Bros. Vous voulez pas nous raconter Smash Bros, parce que moi je trouve ça très moche à regarder.
Oui,
et eux, ils trouvent ça très très drôle à va jouer.
Ce sont les personnages de l'univers Nintendo, Smash Bros. Ouais. Donc on a Link, on a Mario, on a voilà les personnages tous emblématiques. Et c'est un combat effectivement où on va jouer sur un sur des comme un peu sur un jeu de plateforme. On a des niveaux et on doit essayer d'expulser son adversaire du ring. Mm-hmm. On va dire une forme moderne du sumo peut-être.
Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que dans tous ces jeux qui se prêtent au e-sport, visuellement, on est dans des univers graphiques très très différents. C'est-à-dire que Smash Bros, par exemple, c'est très simple.
C'est très coloré.
C'est très coloré, c'est très ludique, c'est très enfantin. Alors que Call of Duty, par exemple, c'est une super production.
Ah, c'est photoréaliste, oui, absolument.
Hollywoodienne. Ouais, c'est vraiment très très impressionnant. Et là-dedans, qu'est-ce qui est ou n'est pas télévisuel, finalement? Vous qui avez été un journaliste spécialiste dans le jeu vidéo à la télévision.
Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est que ce sont d'abord des jeux qui ont été faits pour être joués et pour être joués en équipe. Donc, ils n'ont pas été pensés pour être médiatisés. Et effectivement, quand vous avez 10 joueurs qui s'affrontent, enfin, 5 joueurs qui jouent contre 5 autres joueurs, quand on passe de caméra en caméra, c'est très compliqué de savoir dans quelle équipe on est, comment ça joue. Donc, les éditeurs commencent maintenant à créer des outils qui permettent de créer une vue virtuelle, une vue du dessus, un peu comme le football, une vue plus large. Mais effectivement, voilà, souvent, il y a des indications un petit peu partout. Le pire, effectivement, c'est League of Legends, avec voilà, tous les joueurs qui sont souvent sur le même écran qu'on voit. Donc souvent, voilà, le problème, c'est que ça n'a pas été adapté pour être diffusé à la télévision.
Ouais.
Mais les éditeurs ont pris conscience, en tout cas, de cet effet de médiatisation et aujourd'hui travaillent à essayer donc, justement, de donner des outils aux casteurs, aux personnes qui commencent ça et qui essayent de faire vivre.
Alors, dans le mot e-sport, il y a sport, on va parler aussi des grands jeux de football que sont PES et FIFA, qui se mènent, c'est les deux grandes licences, hein, qui se mènent une guerre sans merci pour obtenir les licences des clubs, les licences de l'Euro par exemple.
Exactement, des compétitions.
Des grandes compétitions, de la Ligue des
Champions. Des stades aussi, c'est important de jouer dans un stade, dans le vrai stade qu'on connaît, donc ça aussi ça se monnaie.
Ouais, c'est ça. Donc la FIFA, par exemple, FIFA n'a pas de contrat avec la Juventus, n'a pas Cristiano Ronaldo, c'est ça.
Oui, voilà,
donc
c'est
un vrai problème. Ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai vu il n'y a pas longtemps que, par exemple, Ribéry.
Il était très fâché cette année.
Ah,
oui.
Alors pourquoi?
Ben parce qu'en fait, son visage n'était vraiment pas reconnaissant. Enfin, voilà, il ne se retrouvait pas dans le personnage. Il a râlé. Et il y a eu depuis une petite mise à jour et c'est bon.
Ça. Il a réclamé un avatar qui lui ressemble un peu plus que ce qu'il est. Ça signifie quoi? Ça signifie que FIFA et PES, j'imagine que ce n'est pas une manne financière essentielle pour le marché du football, mais qu'en revanche, en termes d'image, c'est très très important.
Bien sûr que c'est très important.
Pourquoi?
C'est important pour quand on aime le football, on le regarde à la télévision et on a envie, quand on est gamer, on a envie de le jouer et on a envie que nos équipes aient les mêmes maillots et que les joueurs qu'on va jouer soient ressemblants à la réalité. Donc effectivement voilà après c'est très compliqué le monde du foot, voilà, elle appartient à quelqu'un, les équipes etc. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc en fait aujourd'hui finalement la fabrication du jeu en elle-même coûte beaucoup moins cher que tous les droits qu'il faut acquérir et toute la communication qui est nécessaire.
Pour pouvoir s'ancrer dans le réel, évidemment. Un petit coup de Fortnite. Allez, un petit coup de Fortnite.
Il y a un gars sur moi.
C'est le moment. Oh là là, toi, je vais t'emmener sur une chambre. Viens avec moi.
C'est un abo.
Viens.
Non,
t'es sûr?
Attends, c'est pas un abo, gros.
Fortnite, le jeu qui est entré dans toutes nos maisons, qui a ravagé le cerveau de nos enfants, qui a relancé le débat sur l'addiction aux écrans.
Totalement d'accord.
Peut-être que vous pourriez expliquer ce modèle de Fortnite qui est très particulier parce que c'est un jeu gratuit.
Absolument.
Donc le problème de Fortnite, c'est pas d'acquérir un nombre de joueurs, c'est que le joueur reste le plus longtemps possible parce que c'est là qu'il dépense de l'argent.
Effectivement, après, il va dépenser un petit peu d'argent parce qu'il aime son jeu et qu'il trouve que finalement, il prend beaucoup de plaisir, donc voilà. Fortnite, pour le coup, c'est très facile à comprendre.
Oui.
On prend un avion, on est lâché 100 sur une île en parachute et le gagnant est le dernier survivant. On va s'affronter, on va rentrer dans des maisons, on va récupérer ce qu'on trouve, une poêle, une arme, et puis on va essayer comme ça de...
Dans un univers, alors c'est une battle royale hein, évidemment,
c'est
mais
ça.
Dans un univers très aseptisé.
Oui,
non
très coloré pour justement
très coloré, très
permettre
aseptisé.
Aux plus jeunes de jouer, parce qu'il y a une classification dans le jeu vidéo, les jeux plus 18, les jeux plus 16, etc. Et donc,
de sang là.
Non,
d'accord.
Pas de sang, donc on peut baisser le PEGI et donc permettre à des joueurs plus jeunes de jouer à ce jeu-là.
Parlons-en de ce PEGI justement parce qu'il a été l'un de vos ennemis redoutables pour la médiatisation du jeu vidéo à la télévision. Un extrait de votre émission.
Bonjour et bienvenue dans le journal des jeux vidéo qui chaque semaine vous affranchit en 10 minutes sur les dernières infos du monde vidéoludique.
Alors vous vous prenez en 2006 une recommandation du CSA sur les images violentes, la diffusion des images violentes à heure de grande écoute. Exit du coup les jeux interdits aux moins de 18 ans et aux moins de 16 ans, même parfois, ce qu'on appelle PEGI 16 et PEGI 18.
C'est ça.
Conséquence, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, on ne peut plus parler de Call of Duty à midi, on ne peut plus parler de GTA, on ne peut plus parler des, en fait, finalement, des phénomènes des jeux. Je vous rappelle juste une chose, l'âge moyen du joueur aujourd'hui, alors ça a progressé dans le temps, c'est 40 ans. Mm-hmm. Donc il y a des jeux vidéo pour les adultes et c'est pas parce que...
L'âge moyen du joueur de jeux vidéo, c'est 40 ans.
Oui,
c'est 40 ans. Non mais qu'on se le répète.
Oui, voilà, c'est ça. Absolument.
C'est passionnant. Et sur les 11 millions de joueurs en France, il y a autant d'hommes que de femmes. C'est-à-dire que les gens ont une image du jeu vidéo qui est celle soit du e-sport, soit de Call of Duty, des jeux de tir. En voilà. réalité, c'est aussi quand on joue à Candy Crush sur son téléphone portable en attendant son tramway et le
absolument,
matin.
Le...
Voilà. Et là, il y a autant de femmes que d'hommes.
Exactement. Après, on ne joue pas exactement au même jeu, mais tout à fait, oui, c'est ça. Et je crois que les jeux de tir, c'est à peu près 25 ou 30% de la production. Mm-hmm. Donc, il y a 70% d'autres jeux qui ne sont pas des jeux de tir.
C'est ça, voilà. qui ne sont pas des jeux de tir. Alors, donc, on dit... Exit les images violentes, ou dites violentes, en tout cas interdites dans l'industrie du jeu vidéo, au moins de 16 ans, au moins de 18 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre émission, du coup, elle est recalée tard le soir.
Après la soirée football, alors c'était bien, on était quand même après une soirée où il y a en général beaucoup de spectateurs. Mais c'est vrai que voilà, c'est dommage, le jeu vidéo, on ne peut pas en parler avant 22h si on veut pouvoir parler de ces jeux plus 18.
C'est ça. Ce qui est très intéressant, c'est que par ailleurs, l'adaptation des jeux vidéo au cinéma, qui donne des scènes très explicites puisqu'elles sont tournées pour le grand écran, là pour le coup est autorisé à la télévision.
Et oui, parce que ce n'est pas exactement la même classification. Vous n'avez pas le droit de parler de Tomb Raider aux heures de grande écoute. Par contre, le film, vous pouvez montrer des bandes annonces.
Tomb Raider, c'est quoi par exemple?
Tomb Raider, c'est Lara Croft, c'est une.
C'est
l'Indiana Jones au féminin, on va dire un petit peu. Et effectivement, elle a des ennemis des fois, donc qu'il faut dessouder pour. On parle pas comme ça dans le jeu vidéo. Mais voilà, il y a ce qui est dommage avec cette réglementation, c'est qu'on ne peut pas, si on avait des obligations comme pas d'images violentes ou obligation de dire pendant tout le sujet que ce jeu est destiné aux adultes, on pourrait parler de ces jeux. Là, c'est pas d'image, donc c'est un petit peu dommage.
Autre facteur de non-médiatisation, on va dire de frein à la médiatisation, c'est que finalement, le jeu vidéo n'est pas incarné, contrairement au cinéma, à la chanson, à la littérature, dont on s'arrache les auteurs sur les plateaux télé, et même à la bande dessinée. Au fond, qui pour montrer le jeu vidéo?
Je pense, effectivement, l'industrie, on a l'impression qu'il y a une volonté de ne pas trop starifier les créateurs de jeux vidéo.
Ouais.
Peut-être pour pas qu'ils demandent trop de royalties après, je pense que c'est un petit peu ça. Et donc, il y a très peu de créateurs stars, en fait.
Ouais.
Donc, vous avez reçu David Cage, voilà, français. Il y a notamment, je pense, à Hideo Kojima, voilà. Mais il y a très peu de stars comme ça qui sont starifiées, voilà. Enfin, pardon.
Ouais.
Et peut-être aussi, après, les studios indépendants ne sont pas forcément médiatrainés. Finalement, aujourd'hui, le jeu vidéo a pris ses canaux
à lui.
Ouais. Et donc, voilà, il y a ce petit phénomène. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent en parler très bien, c'est la presse spécialisée, donc les sites internet, les magazines. Aujourd'hui, ils ont grandi aussi avec le temps, ils ont appris, et aujourd'hui, ils sont tout à fait capables.
Et on parlait des jeux de football qui signent des accords avec des grands clubs, donc avec des grands joueurs, mais il y a aussi des grands jeux d'aventure qui se déroulent dans tout un tas d'univers, qui signent avec des grands acteurs.
Absolument.
Pour le coup.
Absolument. Oui, oui. Ben, là, ça fait aussi partie, alors, un petit peu des fois de la communication, mais aussi ça peut vraiment servir un jeu. Là, il y a un jeu qui va sortir l'année prochaine qui s'appelle Cyberpunk 2077, un jeu qui va se passer.
Cyberpunk quoi?
2077.
Ouais.
Un jeu qui va se passer dans le futur et qui est très, très attendu de la communauté, qu'on pouvait, alors, on pouvait pas le tester, mais on pouvait le découvrir à la Paris Games Week.
Pourquoi il est très attendu?
Ah, parce qu'il est fait par un studio polonais qui a fait une autre série, qui vient tout juste d'être adaptée, sur Netflix.
Ouais.
J'ai oublié le nom, ça va me revenir. Et voilà, et donc c'est un studio qui sait faire des jeux de qualité, en tout cas, qui est vraiment attendu avec ce nouveau
projet. Et ça veut dire
projet.
Que visuellement, c'est très beau.
C'est très beau, mais surtout, ça a beaucoup de fond. C'est une vision du futur dans laquelle vous allez avoir beaucoup de liberté. Donc, on va pouvoir. C'est ça aussi le jeu vidéo, c'est on joue, on fait des choix qui impactent le scénario. Et donc, on a, voilà, quand vous jouez à votre jeu, moi je vais jouer au même jeu, mais on n'aura pas la même aventure et on va pouvoir en discuter après. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo, ce n'est pas figé comme un film. Ou comme un livre, on interagit et on le vit à sa manière.
Merci Fred Moulin d'être venu nous voir sur France Inter.
C'est un plaisir, merci.
À très bientôt.